Lorsqu'il se réveille le lendemain, il est frappé d'un mal de crâne féroce. Il se dit que c'est bien fait pour lui, que c'est le bon Dieu qu'il punit. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Il doit être près de midi. Johan doit être levé. Il a honte pour hier soir, encore davantage maintenant qu'il se trouve en plein jour. Il a dormi sur la banquette avec une veste en guise de couverture. Il se force à se lever, à faire un pas au dehors. Pas de trace de Johan. Il est soulagé dans un sens. Puis, il est pris d'une inquiétude à l'idée qu'elle ait pu partir, l'abandonner. Mais ses affaires sont là. Il se dit qu'il va prendre une douche et ensuite il préparera un bon repas pour se faire pardonner. Il ne lui fera que des crudités. Elle sera contente. Avant cela, il se force à faire quelques pas dehors, à l'abri des arbres, pour calmer le mal de tête. Il se dirige vers le ruisseau. Tremper ses pieds dans l'eau glacée lui fera du bien. Il s'interrompt brutalement à quelques pas du ruisseau, car Johan est là, assise sur un gros rocher. Elle a un téléphone contre l'oreille, et elle parle. Elle ne chuchote pas comme l'autre jour. Elle a une voix assurée qu'il ne lui connaît pas vraiment. Pas une voix forte, mais une voix claire.
Non, il faut que t'arrêtes d'appeler.
Elle marque un temps de silence. Malgré le bruit du ruisseau, Émile surprend une voix d'homme qui résonne dans le combiné. Une voix assez jeune.
Non. Arrête de pleurer comme ça. Tu disais que tu respecterais mon choix. Je sais pas. Je te l'ai déjà dit. 1 mois, 6 mois, 1 an. J'ai besoin de ce temps. Non. Arrête.
Elle marque une pause plus longue comme si elle avait besoin de se contenir ou de reprendre son souffle.
On était d'accord. Je reviendrai quand je serai prête, je te l'ai déjà dit. Tu peux pas continuer à m'appeler comme ça. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'espace.
Elle se prend la tête entre les mains. Il s'écoule quelques secondes. Quand elle reprend, sa voix est irritée.
Oui, on s'est aimé, mais ça ne change rien. Non, je sais plus maintenant. J'ai besoin de temps pour savoir si c'est encore le cas. Arrête de pleurer, c'est comme ça.
Émile reste figé quelques secondes, puis il réalise qu'il ne devrait pas être là. Il recule en silence, essaie de ne pas écraser de branches mortes. Cela ferait un bruit affreux et Johan le surprendrait. Elle saurait qu'il sait. Ni l'un ni l'autre ne saurait gérer cette situation. Il regagne le chemin du camping-car le plus vite possible. Il est fixé maintenant. C'est un homme qui l'appelle. Un homme qui pleure son départ. Un homme qu'elle a aimé un jour, mais qu'elle n'est plus sûre d'aimer. La table est prête, il l'a dressée. Il a cuisiné une omelette aux champignons en priant pour qu'elle mange des œufs, une salade verte et un peu de riz qu'il a fait cuire avec une branche de romarin. En l'attendant, il a sorti sa feuille blanche et son stylo. Mais ça n'est visiblement pas le jour pour écrire sa lettre. La migraine est là, elle cogne contre sa boîte crânienne. Les images de la nuit sont encore trop présentes. Les mots qu'ils ont prononcés au bord du ruisseau.
Elle avait dans l'idée de faire un bébé et elle était beaucoup plus prête que moi.
Il ne sait pas pourquoi il s'est confié. Pourquoi à cette fille? Est-ce que c'est plus simple d'avouer ses erreurs à des inconnus? Émile avait rencontré Laura à l'université. Il s'ennuyait en cursus de commerce. Il ne faisait pas grand-chose. Le strict minimum. Laura était dans la classe au-dessus de lui. Elle était venue leur présenter son stage qu'elle avait effectué dans une agence immobilière pour encourager d'autres étudiants à postuler. Il l'avait trouvée belle et insolente. Ils s'étaient croisés à une soirée étudiante le soir même. Il l'avait attrapée par l'épaule dans la foule, avait déclaré être très intéressée par l'entreprise dans laquelle elle faisait son stage. Elle n'avait pas été dupe et avait éclaté de rire. Il avait adoré son rire. Il était à moitié tombé amoureux d'elle à ce moment-là. Ils avaient passé la soirée à discuter, accoudés au bar. Ils s'étaient embrassés en partant. Ils s'étaient donné rendez-vous le lendemain pour prendre un goûter en centre-ville. Ça avait commencé comme ça, sur les chapeaux de roue. Ils ne s'étaient plus jamais lâchés. Elle venait dormir dans son petit studio étudiant. Il allait dîner dans sa colocation. Parfois, il y restait couché. Elle pouvait décider de sonner chez lui en pleine nuit, juste pour sentir son odeur avant de s'endormir. Ou elle venait le chercher à la pause devant son amphi et elle déclarait «
Viens, on va au cinéma !»
il abandonnait les cours et il la suivait. Elle était impulsive, elle respirait la vie. Elle n'aimait pas rester longtemps au même endroit, elle se lassait vite. Elle pouvait quitter une soirée au bout d'une heure en décrétant que ça sentait le moisi. Elle décidait de partir en week-end à la mer le mardi soir et il n'avait qu'à la suivre s'il en avait envie, car elle, elle partait. Et il la suivait, car il savait qu'elle disait vrai. Elle serait partie sans lui. Elle aurait pris sa vieille voiture, un maillot de bain, une brosse à dents et elle serait partie. Ça avait été ça le début de leur relation, tout en rebondissement, tout en passion. Il la savait libre et il l'aimait d'autant plus qu'il savait qu'elle pouvait partir à tout moment. Après ça, ils s'étaient calmés. Ils avaient fréquenté la fac plus assidûement. Papa et maman râlaient des deux côtés. Ils s'étaient installés ensemble après 2 ans d'allées et venues incessantes entre leurs logements respectifs. Laura avait terminé ses études et trouvé un emploi. Elle avait arrêté de s'inventer des week-ends improvisés à tout va. Elle avait commencé à s'inquiéter quand il ne rentrait pas à l'heure prévue. Il avait senti qu'elle était moins libre. Il avait arrêté de la considérer comme un oiseau fou. Il avait cru qu'elle était devenue un bon vieux matou, qu'elle resterait toujours là. Alors oui, ça aurait été difficile d'avouer à Renaud qu'il avait foiré, qu'il avait voulu faire patienter Laura, qu'il avait considéré son idée de grossesse comme un caprice. Il était censé être le plus doué de deux, le modèle, celui qui savait, qui connaissait les femmes, qui n'était pas maladroit ou angoissé. Pourtant, c'est Renaud qui avait réussi. Il avait su combler Laetitia. C'est lui qui avait un bébé aujourd'hui.
C'est toujours plus simple d'accuser son rival d'être la cause de la rupture. C'est beaucoup plus simple que de voir ce qu'on a fait foirer.
C'est sans doute ce qu'il a fait en se persuadant que Laura était partie pour un autre. Il n'y a probablement pas d'autre. C'est son rêve, sa liberté que Laura est partie retrouver. Il entend les pas de Johan sur les gravillons du parking avant de la voir arriver. Il se redresse un peu trop vivement.
Bonjour.
Bonjour.
Elle ne semble pas lui en vouloir pour la nuit dernière. Elle a juste l'air ailleurs, comme à son habitude. Elle se laisse tomber sur sa chaise sans même prendre la peine de cacher son téléphone portable. A-t-elle vraiment envie de le cacher, au fond ?
J'ai préparé le repas. On devrait manger. Le riz va être froid.
Elle porte son éternel chapeau noir et un ensemble Sarouel t-shirt noir. Elle ne porte donc que du noir. C'est une certitude maintenant. Il lui remplit son assiette pendant qu'elle laisse son regard planer dans le vide. Sa conversation avec l'homme au téléphone semble l'avoir déracinée.
T'étais au ruisseau ?
Il joue les idiots pour l'obliger à parler, à se sortir de son état apathique.
Ouais.
Il ne trouve rien à ajouter. Il lui tend son assiette, mais elle ne fait pas de mouvement vers ses couverts.
Tu manges pas ?
J'ai pas très faim.
Elle semble secouée, hagarde. Il se demande pourquoi elle a quitté l'homme du téléphone. Comment elle l'a quitté ? Pourquoi il continue inlassablement d'appeler ?
On était d'accord. Je reviendrai quand je serai prête.
Ça n'a pas l'air d'être une rupture nette. Ça ressemble à un break. Qu'est-ce qu'elle cherche en fuyant, en fuguant avec le premier type venu, en s'éloignant coûte que coûte de son petit ami ? Est-ce qu'elle veut se prouver quelque chose ? Et lui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il cherche ? Sa lettre est toujours là, à côté de son assiette, obstinément blanche. Il est incapable de trouver quelque chose à écrire. En partant, il a cru qu'il avait une explication toute simple. Aujourd'hui, Émile comprend que c'est plus compliqué. Il y a ces bribes de passé qui ressurgissent et qui remettent tout en relief, qui apportent un éclairage nouveau. Il n'y a peut-être pas qu'une raison évidente à son départ. Johan porte une bouchée de tomate à sa bouche. Elle se force à manger. Ça lui semble être bon signe. Il se dit qu'il peut peut-être lui parler, qu'elle peut peut-être l'éclairer. Elle est partie, elle aussi, après tout. Il se gratte la gorge.
J'essaie d'écrire cette lettre depuis hier.
Il a une voix mal assurée. Elle relève la tête de son assiette. Il lui désigne la feuille blanche.
Une lettre pour quoi ?
Elle n'a pas demandé une lettre pour qui, mais une lettre pour quoi. Et elle a parfaitement raison. Cette lettre ne s'adresse à personne en particulier. Pas plus à ses parents qu'à Renaud ou qu'à lui-même. C'est une lettre pour expliquer. ou peut-être simplement une lettre pour comprendre. C'est sans doute pour cela qu'il n'arrive pas à l'écrire.
Une lettre d'adieu pour mes proches, pour annoncer mon départ.
Johan repose sa fourchette et hoche la tête avec un petit air douloureux.
Ils savent pas encore que tu es parti ?
Non, je suis parti comme ça, un peu comme un voleur. Ils doivent se douter que je suis parti. Ils ont dû trouver mon studio fermé à clé, ils ont dû essayer de m'appeler. Seul Renaud, c'est mon meilleur ami. Il a peut-être vendu la mèche maintenant. Ça fait 4 jours.
Elle recommence à manger des petites bouchées sans se presser.
Pourquoi tu leur as pas dit que tu partais ?
Ils auraient pas voulu le comprendre. Renaud, c'est différent, mais mes parents et ma sœur, ils auraient pas compris.
Il y avait cet essai clinique. Ce protocole pour étudier la maladie, faire des tests, essayer de la ralentir. Ils voulaient que je l'intègre.
Johan termine d'avaler sa bouchée avant de demander de son ton poli.
C'était voué à l'échec ?
L'essai clinique ?
Ouais.
Ça ne m'aurait pas guéri. Ça a jamais été le but.
Johan prend le temps de formuler ses questions, choisissant chaque mot avec application.
Ils se sont persuadés que ça pouvait te guérir ?
Ils se sont arrangés avec la vérité, je crois.
Nouveau silence. Johan prépare ses mots.
Tu aurais pu simplement refuser cet essai clinique ?
C'est-à-dire ?
Tu n'avais pas besoin de partir aussi loin. Il te suffisait de refuser l'essai.
C'est plus compliqué que ça.
Elle attend calmement. Elle a cessé de manger. Elle a posé sa fourchette et elle le regarde. Pour une fois, elle le regarde dans les yeux. C'est rare et il a du mal à trouver ses mots.
J'allais devenir sénile. Je veux dire, je vais devenir sénile. Je n'avais aucune envie qu'ils me voient comme ça. Je voulais rester dans leur mémoire comme moi, le vrai moi. Pas comme un vieillard sénile.
Tu penses qu'ils t'auraient considéré comme un vieillard sénile ?
Ça avait déjà commencé. Leur regard avait changé. Leur comportement aussi.
Johan baisse le regard sur son assiette, hoche la tête imperceptiblement.
Alors je comprends.
Quelques secondes s'écoulent. Émile finit par se servir un verre d'eau et Johan recommence à picorer tout doucement. On n'entend plus que le bruit du ruisseau lointain, le chant des oiseaux et le bruit des couverts.
J'ai toujours eu envie de voyager,
ajoute Émile, la bouche à moitié pleine. Le visage de Johan refait surface lorsqu'elle lève la tête de son assiette.
Oui ?
Ouais. Renaud et moi, on voulait partir après la fac. On voulait prendre nos sacs à dos et partir en montagne.
Vous ne l'avez pas fait ?
Non. On a rencontré nos petites amies, puis on n'a plus voulu partir.
Johan a l'ombre d'un sourire au coin de la bouche. C'est la première fois qu'il la voit manifester un semblant d'émotion. Est-ce que l'appel téléphonique l'a secouée au point de la faire sortir de sa léthargie ?
Où est-elle ?
Interroge Johan.
Qui ?
Ta petite amie ?
Oh, elle est partie depuis un an. Elle est sans doute la petite amie de quelqu'un d'autre à l'heure qu'il est.
Elle a un mouvement du menton comme un acquiescement discret. C'est une des premières fois qu'ils ont une vraie discussion, alors il veut en profiter pour ajouter très vite.
D'ailleurs, ce qui s'est passé hier soir, c'était idiot. Je fais pas souvent ce genre de choses. Je voulais pas que ça se passe comme ça.
Elle a un mouvement de la main comme si elle voulait l'interrompre, l'empêcher de continuer ou lui signifier que ça n'a aucune importance, qu'elle ne veut pas en parler.
Elle fait le GR10 avec ses amis et elle a quelques conseils à nous donner sur les itinéraires et les équipements.
Il poursuit très vite comme pour se débarrasser de ce sujet qui le met mal à l'aise.
D'ailleurs, elle devrait revenir ce soir pour nous aider à préparer notre départ. Elle devrait venir au camping-car. Tu seras là ?
Je pense.
Bon.
Il ne voit rien d'autre à ajouter. Maintenant que l'information est passée, il se sent plus léger. Il attrape sa fourchette et se met à manger avec appétit. Ça n'est pas mauvais. Le riz est froid, mais il est légèrement parfumé par le romarin.
J'étais pas sûr que tu mangeais les œufs, en tant que végétarienne,
dit-il la bouche pleine, en la voyant entamer l'omelette.
Si, je mange des œufs.
Ça fait longtemps que tu manges plus de viande ?
Depuis gamine.
Ah ouais ?
Elle acquiesce, pioche dans le tas de riz et s'interrompt. Tu as trouvé le plan de Romara ? Demande-t-elle. Il relève la tête vers elle. Elle s'est arrêtée de mâcher. Elle a un air légèrement surpris sur le visage.
Ouais, j'en ai mis dans le riz. Tu aimes ?
Ouais. Mais elle ne reprend pas sa mastication. Elle reste immobile. Alors tu as trouvé le plan de Romarin. Cette information semble sacrément la perturber et il ne comprend pas pourquoi. Il répond mal assuré.
Oui, derrière le camping-car.
Il se demande s'il a fait quelque chose de mal. Mais alors, il voit se dessiner sur son visage un sourire. Un vrai sourire. Le premier en 4 jours. Comme un rayon de soleil. C'est inattendu. Elle sourit à cause du romarin. Il en reste sans voix, sa fourchette à la main. Il tente de prendre la mesure de ce qui vient de se passer, mais il n'y arrive pas. Bon sang, elle sourit à cause du romarin. Et elle est sacrément jolie comme ça.